9h29 minutes. Ça tombe bien ce matin parce que l'actualité nous amène à parler justement d'alimentation un peu. Sylvain Charlebois, à qui on parle régulièrement, qui est le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire et professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, vous êtes ici parce qu'il y a un congrès et vous allez prendre la parole. Le sujet est intéressant, c'est sur les légumineuses.
Ouais.
Et là, on a vu tout ce qui s'est écrit, puis c'est pour ça que je vous ai invité ce matin pour faire un peu le bilan de ça. Première question, sentez-vous dans les recherches que vous faites et les études que les légumineuses intéressent de plus en plus les consommateurs? Longtemps, ça a été vu comme un... Moi, je me souviens des premières émissions qu'on faisait de bouffe, là, il fallait vendre les légumineuses puis expliquer aux gens que ça pouvait être une alternative, par exemple, pour les protéines. Est-ce que vous sentez ça dans les études, que les gens, maintenant, sont moins réfractaires?
Il y a une certaine démocratisation de la protéine végétale. En fait, le mouvement intéresse plutôt les jeunes. Si vous êtes sur les réseaux sociaux vous-même, vous en apercevez... C'est incroyable. Il y a une campagne, une mouvance vers la protéine végétale de plus en plus. Par contre, il y a des rapports qui suggèrent cet été que la vente de bœuf est en hausse, malgré la hausse de prix. Donc, il y a beaucoup d'engouement dans les manchettes. Et tranquillement pas vite, les gens, surtout les jeunes, les millénaux, Génération Z, s'intéressent à la protéine végétale. Mais il y a un attachement envers la viande toujours. 91% des Québécois achètent de la viande régulièrement, toujours.
Est-ce qu'ils en achètent moins qu'avant?
La quantité diminue. Les prix augmentent. Fait que c'est toujours difficile de mesurer exactement.
C'est quoi le...
Fait que le volume n'est pas autant là, parce que par capita, la consommation de bœuf diminue depuis 30 ans. Là. C'est pas nouveau. Là. Pour ce qui est du poulet, du porc, c'est à peu près la même chose. Mais de plus en plus, on voit que les gens s'intéressent à d'autres choses que la trifecta de viande, poulet, porc, bœuf. On va dans le poisson. On va vers les lentilles, pois chiches. Et là, aujourd'hui, ce que Beyond Meat a fait, l'héritage de Beyond Meat, Veggies, les autres marques qu'on connaît bien, c'est que tout d'un coup, on offre un produit qui a du bon sens, qui goûte quelque chose. Il y a 20 ans, les options végétariennes, c'était horrible. Ça coûtait pas très bon. McDonald's avait lancé son Veggie Burger en 2003, l'a enlevé de son menu en 2005 parce qu'il vendait pas, parce que c'était pas bon.
Mais en même temps, j'ai lu des trucs cet été où là, on dit attention, il y a beaucoup de sel là-dedans, c'est-tu bon pour la santé? Ça paraît bien. Là,
les pois jaunes ont beaucoup de sel, c'est ça le problème. C'est un ingrédient naturel, les pois jaunes. Mais dans le pois jaune, il y a du sodium. Et c'est ça le problème pour les Beyond Meat, Veggies, ces compagnies-là. Là, parce que c'est comment qu'on fait pour extraire le sodium d'un ingrédient naturel? Il faut dénaturaliser un ingrédient qui est naturel, finalement. C'est ça le problème.
Mais là, ça doit marcher parce que là, on ne sait pas que dans des trucs spécialisés, là, on en trouve chez IGA, on en trouve. J'ai vu des restaurants de burgers offrir l'option Beyond Meat, puis ils se plaignent.
Ils disent Beyond Meat.
Oui, 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 absolument. Puis ils se plaignent du fait que souvent c'est en rupture de stock, que la compagnie a de la misère à les fournir. Ça veut dire que c'est quand même là. Plus large public qu'on peut le penser au départ.
Ah oui. Ben, en fait, le produit Beyond Meat se retrouve dans 35 000 magasins restaurants aujourd'hui. Là. C'est une compagnie qui vaut 14 milliards de dollars. Donc, c'est pas rien. Là. On parle de quelque chose de méga. Pendant que Uber et puis Lyft ont vraiment échoué avec leur arrivée en bourse, ben Beyond Meat a battu des records cette année. C'est incroyable ce qui se passe. C'est intéressant de mon point de vue parce que c'est vraiment la première fois qu'il y a un engouement pour l'investissement dans le domaine agroalimentaire. Auparavant, on parlait toujours de subventions, intervention du gouvernement, bon, il faut aider les agriculteurs, tout ça. Pour la première fois, le secteur privé s'intéresse au secteur agroalimentaire parce qu'il y a de l'argent à faire. Pourquoi? Parce que l'innovation et pourquoi on laisse de côté les classiques pour innover. On tente de découvrir d'autres choses et on invite le consommateur à découvrir autre chose.
Est-ce que vous en voyez d'autres innovations qui pointent à l'horizon?
Oui, c'est le début de quelque chose de nouveau. Bon, on parle de protéines végétales, là, mais écoutez, là, aux États-Unis, d'ici quelques mois, on pourrait avoir de la viande de laboratoire. être commercialisé.
Ça, je trouve que ça fait Frankenstein.
Ça fait Frankenstein, c'est sûr. C'est à un autre niveau. Réglementer tout ça, c'est pas simple. Là. On se comprend parce que là, il n'y a pas de carcasse, il y a juste des cellules souches. Là. Il faut quand même un animal pour faire de la viande en laboratoire en passant, mais c'est le processus qui est difficile à réglementer pour ce qui est de l'Agence canadienne et Santé Canada. Mais une fois que c'est fait, une fois que les Américains le font, ben, ça va être une question de temps avant qu'on le voit au Canada. Ça l'effraie les gens. On a parlé d'insectes aussi.
Mais ça me rappelle quand on parlait d'OGM, là, par exemple, du poisson. Puis, ouais. Tu sais, alors, est-ce qu'on peut le savoir? Les gouvernements ne voulaient pas l'indiquer sur l'emballage. Est-ce qu'on... Puis là, tu te dis, mais j'ai pas. Il y a comme, d'un côté, l'innovation qui peut être intéressante. Puis en même temps, le réflexe de dire, on veut que ça demeure le plus naturel possible, en tout cas, le plus près de son point d'origine.
On n'arrête pas de faire des gaffes au niveau de la communication du risque avec le consommateur. En 1994, on a décidé d'offrir une opportunité à nos agriculteurs de produire du maïs avec des semences génétiquement modifiées, sans en parler aux consommateurs, sans aller chercher cette licence sociale-là. Et on ne paye pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un paquet de lobbies, il y a beaucoup de lobbies contre les OGM parce qu'on ne comprend pas la science. On répète la même erreur avec le saumon génétiquement modifié, qui est sur le marché depuis l'année passée. Vous ne le savez pas, mais vous en avez probablement déjà mangé.
Oui, mais j'aimerais ça le savoir.
C'est ça, exactement.
Parce que le gouvernement ne veut pas qu'on le sache. Non, mais dans le sens que sur l'étiquetage, là, il me semble que ce serait le minimum que de dire, moi, je suis un consommateur, je veux savoir ce que je bouffe. Et là, ah oh non, vous n'avez pas à savoir ça, on n'a pas à l'indiquer si c'est un saumon génétiquement modifié.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fossés sur le marché, comme par exemple le projet non-OGM qu'on voit souvent dans la section de pain là, au supermarché. Mais il y a beaucoup de produits qui peuvent pas contenir d'OGM.
De toute façon.
Mais on abuse d'un peu du manque de connaissances des consommateurs.
Je vais vous amener sur un paquet d'autres sujets. Ouais. Là, on parlait de suppléments alimentaires, évidemment, dans le cas de dopage d'une athlète. Elle dit, ben moi, j'ai pris mes suppléments, puis j'ai fait ça correctement, puis je ne le savais pas. Croyez-vous à ça, la contamination, puis quelqu'un s'en rend pas compte, puis en production dans des usines, la substance interdite se retrouve dans le produit qui est légal?
Ben là, on parle d'une athlète de haute performance. J'imagine qu'elle est encadrée pas mal plus que vous et moi.
C'est
là.
Sûr.
Qu'est-ce qu'on mange, déjeuner, dîner, souper, ça va être à nous de décider, tandis que dans son cas, elle, c'est pas mal plus compliqué. Là. On parle d'une athlète.
De haut niveau, là.
Oui, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai vu les entrevues de hier, là, puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé qui était hors de son contrôle. À part de ça, je peux pas vous dire grand-chose. Ouais.
Trouvez-vous que c'est utile, ces suppléments-là, les suppléments nutritifs, là, qu'on dit ben ça compense pour une alimentation qui n'est pas parfaite, et puis d'autres qui disent au contraire, t'as pas besoin de ça. Dans l'alimentation conventionnelle, t'as tout ce qu'il te faut.
Bien, il y a deux mouvements qui se passent. Il y a l'individualisation de l'alimentation, comme tout le monde veut rechercher ce qu'ils veulent, puis c'est correct, là, parce que tout le monde a des besoins différents. Vous et moi, on a des besoins différents pour ce qui est de l'alimentation. L'autre côté, ben, puisqu'on individualise l'alimentation, tout le monde mange tout seul. 41% des gens mangent seul à chaque jour. Et quand on parle d'alimentation...
Mais là, vous me parlez d'un repas ou de tous les repas seuls?
Tous les repas. Il y a beaucoup de gens, je suis sûr que ça arrive ici, ça arrive à Dalhousie, les gens mangent à leur bureau. Sur le pouce. On mange en marchant. En m'en venant ici de l'hôtel, j'ai vu un paquet de monde déjeuner en marchant. Là. C'est un phénomène qui, à mon avis, nous détache un peu de la socialisation qu'offre l'alimentation. Puis c'est là qu'on commence à manger mal. On parlait de surplus de poids cette semaine dans les manchettes, le tour de taille. Ben, c'est surtout ça. C'est beau bien manger, mais c'est où on mange, avec qui on mange. Est-ce que l'alimentation est une priorité dans notre vie? C'est ça qui commence à manquer, à mon avis.
On s'en est déjà parlé, mais je vais y revenir sur l'importance du prix dans la décision du consommateur. Puis toujours l'exemple classique, là, fraise de la Californie, pas trop chère, pas trop bonne non plus, et fraise, mettons, du Québec, un peu plus chère et meilleure. Vos études montrent quoi? Les gens, là, quand je prends cet exemple-là, basculent vers où?
Ça dépend où est-ce qu'on est. Si vous allez à un marché public, oubliez ça, le prix, ça n'a pas vraiment d'importance parce que tout est relatif. Je ne peux pas dire tout est cher, mais c'est parce que si vous achetez en saison, vous allez avoir des aubaines. Là. Puis si vous achetez à 5 heures le soir, vous allez avoir des aubaines contrairement à 9 heures le matin.
Mm-hmm. Okay?
Mais en épicerie, là, la game se joue à la scène. Les épiciers savent ça. On ne va pas se l'avouer, mais on est des bêtes de bargain. Excusez-moi l'expression en anglais, là, mais on fait attention parce qu'on n'a pas... faut manger. Et si on est...
On a un budget qui n'est pas...
C'est ça. Mais le Québécois, je vous demandais, bon, ouais. Ça dépend à où. L'Ontario, le ménage moyen va dépenser 8,5-8,7% de son budget annuel en bouffe. Au Québec, on parle de 14-15%.
Presque ouais, le double.
C'est le plus haut pays. Suivi par la Colombie-Britannique à 13% à peu près. Donc, le Québécois...
Et on explique ça comment? Ça vient où?
C'est notre relation avec l'alimentation. C'est notre héritage. Moi, je donne des conférences partout au pays. Puis, je le sens quand je parle à des gens d'ici au Québec. Ma famille est au Québec. Là. L'alimentation, on a une relation différente avec l'alimentation.
Mais là, si je résume bêtement, je dirais que dans le reste du pays, c'est comme, ben, il faut manger, c'est une obligation. Puis ici, ça peut être plus une fête, puis c'est un moment de
c'est ça.
Un peu plus, on a un côté plus latin, là, plus
c'est ça. Quand je t'ai invité à souper à Montréal, le souper va durer 3-4 heures. À Toronto... c'est on se fait accueillir, une heure plus tard, ben on se dit bye-bye. C'est à peu près ça. On a eu du plaisir, mais c'est pas la même chose. Et puis, Cora, c'est une entreprise qui a eu beaucoup de difficultés à dépasser les frontières du Québec parce que Cora, déjeuner, c'était vraiment un phénomène, un modèle québécois pour, disons, célébrer le déjeuner. Les gens se réunissaient chez Cora. Il y avait des réunions, des choses comme ça. Mais les anglophones, c'est sûr que le marché anglais n'est pas homogène, là. Mais généralement, dans le monde anglophone, le déjeuner, c'est on va manger ce qu'on a besoin. On a de besoin, pas cher, puis on passe à d'autres choses.
Croyez-vous que c'est une formule qui va avoir du succès, Foodora et Uber Eats, ces services de livraison là, qui font affaire avec les restaurants?
Il y a un momentum.
Mais il commence à avoir pas mal de joueurs, là.
Écoutez, la semaine passée, j'étais à Toronto. Je rentre dans un ascenseur d'un édifice d'après 40 étages. Ma réunion était au temps 38e. Je rentre dans l'ascenseur, les trois autres personnes, c'est des livreurs Skip the Dishes, Uber Eats... Il était trois, là. J'étais tout seul. Il y a une demande, surtout dans les grandes villes, on s'entend. Là. Nous, on le voit à Halifax. À Montréal, c'est la même chose. Pourquoi? Écoutez, allez sur votre téléphone. En dedans de 5 secondes, vous commandez ce que vous avez besoin. La personne arrive. Vous n'avez même pas besoin de donner de pourboire. Là. Tout est inclus. Vous donnez le pourboire par après si vous êtes satisfait. C'est très pratique. C'est plus cher. Mais c'est pratique. Moi, je vois le moment, on s'en va tranquillement pas vite vers les cuisines fantômes pour supporter ces applications-là.
Pas de restaurant là, avec des chaises physiques. Et...
pas de salle à manger, juste des cuisiniers. Même en Angleterre, à Londres, il y a à peu près 70 cuisines fantômes, des cuisiniers qui préparent des plats pour les applications. Et dans certains cas, on parle de robots, des robots culinaires, là, qui prépare les mets à être livrés chez des gens. Et il va y arriver à un moment donné où ces mets-là vont être probablement moins chers que si vous allez au magasin acheter vos ingrédients, aller à la maison puis le faire vous-même. C'est incroyable. C'est là, à ce moment-là, que vraiment, là, la livraison à domicile va être de plus en plus important comme okay. marché.
Dernier sujet, la fraude alimentaire.
Ouais.
On s'en est parlé quelques fois, là, tu sais, sur l'huile puis sur d'autres produits. J'ai écouté un documentaire sur le vin. Et là, on parle de vin, là, de millésimes chers et comment l'arnaque s'est bâtie. Puis comment les gens qui se font arnaquer ne veulent pas se l'admettre. Tu ne veux pas avouer que tu as payé 20 000 $ pour une bouteille de vin qui ne vaut pas ça.
Non, ouais.
Tu sais, c'est une question de... Mais... ce que je me rends compte, là, c'est que c'est relativement facile de faire de la fraude alimentaire, non?
Ben, ça existe depuis 2000 ans.
Oui, mais même aujourd'hui, là, sur des produits auxquels on pense pas. Le poisson, j'aurais jamais pensé ça. Sérieusement, là, je me disais, non, non. L'huile d'olive.
C'est les pires.
C'est les pires.
Ah ouais, poisson, fruits de mer, c'est les pires parce que.
À cause du prix, là. C'est,
ben, mais... tout se passe en haute mer. Moi, j'étais à Halifax. Ce qui arrive sur les bateaux, là, il y a beaucoup de choses qui se passent en haute mer. Cette industrie-là est un peu obscure. Vraiment, là. Moi, je m'intéresse à plusieurs filières, là. Mais le poisson. Puis les fruits de mer, là, j'ai beaucoup de difficultés à travailler avec certaines entreprises. Il y a des secrets, il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est pas une attitude que je retrouve dans le bovin, par exemple, dans le porcin, ou même dans le lait. C'est différent. Il y a une attitude qui est différente. Puis le fait qu'à chaque fois qu'on va faire des tests, entre 25 et 75 % des échantillons, l'étiquette est fausse dans le domaine du poisson et des fruits de mer. Moi, je suis content que l'Agence canadienne prend la fraude alimentaire au sérieux. On les appuie dans cette démarche-là. Ils font des tests aléatoires une fois de temps en temps. Cet été, je ne sais pas si vous avez vu le rapport, mais on a regardé l'huile d'olive.
Mm-hmm.
42 % des cas, il y avait d'autres choses. Et là, tout récemment, ben, on a regardé aussi les épices, les différentes épices. Il y a un rapport qui va sortir bientôt. Alors, vraiment, c'est testé, puis c'est de savoir à l'industrie qu'on
teste.
Non,
mais les épices, c'est comme de la dope, c'est coupé avec d'autres choses.
Oui, oui.
C'est ça?
Absolument. Hein? Tout ce qui est en poudre, tout ce qui est liquide, il faut se méfier. Et si c'est pas cher, méfiez-vous encore plus.
M. Charlebois, merci beaucoup d'être venu ce matin. Sylvain Charlebois, et on va se reparler bientôt, j'imagine, sur d'autres sujets. Fais la pause, on revient tout de suite après.